Pendant tout ce mois de décembre, ici à l'EBTM, nous réfléchissons ensemble à la venue, à comment la venue de Jésus a vraiment révolutionné notre monde, notre culture, notre histoire. Peut-être nous ne le voyons pas, et là, puisqu'on a grandi ici en France, ou en Occident, et nous sommes un peu tombés dans la marmite, mais cet auteur indien, qui s'appelle Vishal Mangalwadi, il a cette pensée orientale, une arrière-plan oriental hindou, et il regarde vers l'Occident, vers nous, et il dit, la venue de Jésus, le message de Noël, la Bible, a tellement transformé notre monde, votre monde, dans tous les aspects de la vie. Et c'est pour ça que nous avons même pris des sujets un peu atypiques pour Noël. Nous avons parlé de Noël et la politique. Ensuite, nous avons parlé de Noël et la sexualité, en regardant la vie de Marie et Joseph. Et ce matin, nous allons regarder Noël et la science. Noël et la science. Ce que nous avons vu jusqu'à présent ici sur l'estrade avec les enfants, tout ça, c'était très mignon. C'est merveilleux. Et je pense que tout le monde est d'accord que l'histoire de Noël convient parfaitement aux enfants, que c'est une belle histoire pour les enfants et pour les apprendre. Mais entre adultes, concrètement, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et notamment, qu'en pensent les scientifiques de l'histoire de Noël? De nos jours, c'est la phrase qui tranche tout. On va essayer de laisser régler un peu le son. Voilà, c'est la phrase qui tranche tout de nos jours. Les scientifiques disent, les scientifiques pensent. Alors, que pensent les scientifiques de l'histoire de Noël? Pour ça, je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 2, quelques versets. Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2, et puis 7 à 11. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arriver à Jérusalem et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et un peu plus tard, verset 7, ils suivent cette étoile. Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après l'avoir entendu, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. S'il y a un aspect de l'histoire de Noël qui est un peu folklorique, qui n'est pas très scientifique, on va dire que c'est cette étoile de Bethléem. C'est quoi cette étoile? Une étoile qui guide les mages comme ça? Une étoile qui s'arrête sur une maison? C'est quoi ça? Mais ce matin, j'aimerais montrer que Noël n'est pas que pour les enfants. Noël, c'est pour les scientifiques. Noël n'est pas anti-science. Noël est pro-science. Et même nous allons voir que le message de Noël a même permis la science moderne. Et à contribuer au grand progrès scientifique grâce à la vision, grâce aux vérités qui sont inscrites dans l'histoire de Noël, dans le fait que le Créateur est venu dans notre monde. Et je trouve que les mages deviennent un modèle pour notre époque très scientifique. Les mages deviennent un modèle pour nous à suivre. Et nous allons voir leur démarche ce matin. Nous allons voir que pour les mages, la science les a conduits à Jésus. Et ensuite, nous allons voir que ils n'ont pas adoré la science, mais ils ont adoré Jésus. Donc, la science les a conduits à Jésus. Et ensuite, ils n'ont pas adoré la science, mais ils ont adoré Jésus. Tout d'abord, voyons comment la science les a conduits à Jésus. Qui sont ces mages? On dit les mages d'Orient. Le mot vient de magicien, mais c'est pas le magicien qu'on va embaucher pour un spectacle d'enfants à l'école de danse. Mages astrologues, c'est aussi une manière que l'Ancien Testament les appelle. Mais il faut dire que les mages étaient vraiment des astronomes pointus. En fait, on apprend dans l'Ancien Testament, c'est le poste qu'occupaient Daniel et ses amis. Daniel, notamment, qui est appelé un astrologue, un magicien, un mage. Mais le poste de Daniel était un poste de ministre. C'était pas juste quelqu'un qui fait ses horoscopes bidons. Non, Daniel, il était le plus puissant dans le royaume après le roi. Et c'est ça, un mage, c'est ça. Avec beaucoup, ils ont fait de grandes études, notamment scientifiques, astronomiques. Donc ces mages, on va dire que c'est le conseil scientifique de leur pays qui se déplace. Le conseil scientifique de leur pays pour savoir comment. Et comme nous savons même aujourd'hui en France, le conseil scientifique peut avoir une grande influence sur la politique. C'est des personnes puissantes. Donc on va rappeler que ces mages, c'était des scientifiques, c'était des chercheurs à la Cité de l'Espace. La Cité de l'Espace, à l'époque, c'était plutôt en Babylone qu'à Toulouse. Mais nous héritons le travail des mages déjà ici. Il faut aussi dire que l'étude du ciel et des étoiles et des planètes était très développée à l'époque. Faut pas croire que c'est maintenant qu'on a tout découvert, mais déjà à l'époque, ils regardaient le ciel, c'était les étoiles qui leur permettaient de suivre les saisons. Ils avaient pas tous les calendriers, ils avaient pas les internet, ils avaient pas les montres comme nous. Donc c'est le ciel, c'est les astres qui leur permettaient de fonctionner en société. Donc c'était déjà très étudié. Bien sûr, à l'époque, il y avait cette idée que les astres et le ciel et tout ça pouvaient interpréter ou prédire les événements sur Terre. Donc là, on retrouve un peu ce mélange entre l'astronomie et l'astrologie. Mais même pour ça, il fallait qu'ils soient vraiment étudiants et chercheurs des choses qui se passaient dans le ciel. Donc il faut se méfier déjà de l'idée que nous sommes intelligents, nous, à notre époque, et eux, à l'époque, ils étaient ignares et superstitieux. C'est pas tout à fait le cas. C'est vrai que nous avons, nous, plus de technologie, plus de connaissances, mais au niveau astronomie, il y avait déjà une maîtrise impressionnante avant les temps modernes. D'ailleurs, je trouve intéressant, le soir, qu'est-ce que nous faisons le soir? Qu'est-ce que nous regardons le soir? Le soir, nous regardons Netflix. Eux, qu'est-ce qu'ils regardaient le soir? C'était pas Netflix, c'était le ciel, c'était les astres. Donc déjà, qui est plus intelligent? En tout cas, je trouve que leur présence dans l'histoire de Noël est très parlante. Parce que parmi les premières personnes à adorer Jésus, on trouve des grands scientifiques. Donc, des fois, on pense que les scientifiques sont les derniers à venir à la foi, derniers à venir à Jésus. Mais ici, les mages, ces scientifiques étaient les premiers à reconnaître Jésus comme roi et à l'adorer. C'est très parlant. Et maintenant, j'aimerais proposer que la science elle-même les a conduits à Jésus. Et on va se pencher un peu sur ce phénomène de l'étoile de Bethléem. C'était quoi cette étoile, cet astre, littéralement astre? Qu'est-ce qu'ils ont vu qui les ont amenés à Bethléem? Alors, à travers les âges, il y a eu beaucoup d'interprétations. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Parce que Matthieu est assez... Matthieu parle en tant qu'évangéliste, pas forcément en tant qu'astronome. Mais c'était quoi cette étoile? Est-ce que c'était une étoile comme nous l'imaginons, nous, comme l'étoile du Nord, un petit point dans le ciel? D'autres ont proposé, c'est une conjonction de planètes impressionnantes qui les ont marquées. D'autres ont proposé, mais d'autres trouvent que même ça, c'est difficile à expliquer tout ce qui se passe dans ce texte. Donc, ils ont dit, c'est forcément quelque chose de surnaturel. Hein. C'est peut-être un ange, carrément un ange qui... c'est vrai que dans la Bible, les anges et les étoiles sont parfois mis ensemble. Donc, est-ce que c'est un ange qui s'est présenté à leurs yeux comme une étoile? Ou un autre phénomène miraculeux, Dieu a pris son laser divin et du ciel a pointé avec quelque chose comme le droit de Dieu magique. Dieu aurait pu faire tout ça. Mais la question, c'est quoi cette étoile? Et pourquoi? Comment ça a conduit les mages? Et là, je vais m'appuyer sur un travail récent d'un évangélique qui s'appelle Colin Nicol. C'est un Irlandais évangélique. Et déjà, il a pris le texte de Matthieu aussi sérieux. Il dit le texte biblique est inspiré, il n'y a pas d'erreur. Mais déjà, le texte regorge de détails qui nous aident à comprendre un peu comment fonctionne ce qu'ils ont vu. Donc déjà, il parcourt le texte et il voit qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette étoile. Ben, premièrement, on peut dire que c'était quelque chose de visible dans le ciel babylonien. Donc, et aussi, ils vont le revoir à des centaines de kilomètres plus loin, donc aussi dans le ciel de Bethléem plus tard. C'est déjà ça. Et puis, ils disent, c'est ça qui est intéressant, ils disent en verset 1, verset 2, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. » Mais littéralement, nous avons vu son étoile à l'aurore. Nous avons vu son étoile à son lever. Et donc, ce terme peut aussi être un terme scientifique, un terme astronomique. C'est que les étoiles ont une levée, et un lever, et qui est un moment important dans la vie d'une étoile. Moi, j'ai cherché, donc j'ai fait un peu d'astronomie cette semaine, ça m'a passionné. Mais il y a ce qui s'appelle le lever héliaque d'une étoile. C'est le moment où l'étoile devient visible à l'est, au-dessus de l'horizon terrestre, à l'aube, après une période où elle était cachée sur l'horizon. Vous savez, nos étoiles, on les voit souvent juste la moitié de l'année, à part l'étoile nord, puisque tout tourne autour de l'étoile nord. Mais les autres étoiles, et souvent on les voit, ils ont un temps d'hiver, des étoiles d'hiver, des étoiles d'été. Et donc, moi je fais l'astronomie, je regarde le ciel plutôt le soir. Mais les vrais astronomes, le moment le plus intéressant, c'est avant le lever du soleil, parce que c'est là on voit les choses intéressantes, on voit les levées, on voit les nouvelles étoiles qui arrivent, qui vont être avec nous pendant 6 mois ou plus ou moins. Et donc, les astronomes, ils guettent le lever du soleil. Alors, ils disent, nous avons vu son étoile à l'aurore, littéralement. Est-ce que ça indique une direction, c'est-à-dire vers l'Orient, ou est-ce que c'est vraiment un terme astronomique? Nous avons vu son lever héliaque et nous sommes venus, et ça nous a marqué. Quelque chose les a marqués dans ce lever de l'étoile. Ensuite, un autre détail, ils vont dire à Hérode, depuis quand l'étoile brillait, et Hérode va tuer tous les enfants de 1 à 2 ans. Donc c'est possible qu'ils ont même vu quelque chose dans le ciel avant un lever officiel, avant un lever impressionnant, extraordinaire, puisque Hérode va tuer tous les enfants de 2 ans, d'après les recherches soigneux qu'il prend auprès des mages. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, après ils voient cette étoile à son lever, et ils vont se diriger vers Jérusalem et puis aller vers Bethléem. Donc ça veut dire qu'ils marchent vers le sud, parce que Bethléem est au sud de Jérusalem. Donc cette fois-ci, c'est une étoile qui se voit dans le ciel, quelque chose qui se voit dans le ciel, direction sud. Donc ils l'ont vu direction l'est parce que c'est l'aurore, mais ils l'ont aussi vu direction sud puisqu'ils marchent vers Bethléem. Et puis le plus difficile de tout, c'est cette étoile qui s'arrête sur une maison. Et c'est là qui nous trouble un peu. Une étoile, on a du mal à imaginer comment une étoile, puisque les étoiles sont bien plus grandes même que le soleil, comment une étoile peut s'arrêter sur une maison. Les étoiles toutes seules sont des petits points de lumière. Comment ils envoient un rayon? Est-ce que c'est un rayon de lumière exceptionnel? Mais comment on peut dire que cette étoile s'est arrêtée sur la maison? Et puis, dernière chose à expliquer, c'est leur joie, verset 11, quand ils revoient l'étoile, parce qu'apparemment, ils ne le voient pas pendant un moment, ou peut-être c'est juste la journée, et après Hérode, ça devient le soir. Et là, ils voient l'étoile devant eux, et le verset dit qu'ils se réjouissent d'une très grande joie. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que si c'est un ange, c'est quelque chose de tellement bizarre, de tellement ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est difficile à expliquer leur joie, parce que d'ailleurs, chaque fois que les gens reçoivent la visite d'un ange, ils sont effrayés. Dans la Bible, ils sont tous effrayés parce qu'un ange, c'est un guerrier lumineux. On a vraiment pas l'habitude qu'un guerrier lumineux débarque dans notre salon. Donc ça, c'est effrayant. Donc, mais les mages sont pas effrayés par cette chose. Ils sont dans la joie. D'ailleurs, si c'était juste le droit de Dieu qui a écrit un message dans le ciel, là aussi, je ne sais pas s'ils auraient été dans la grande joie. Parce que ça s'est déjà arrivé, un roi babylonien, un droit a écrit sur le mur et ses genoux s'entrechoquaient tellement c'était un phénomène bizarre qu'il ne s'attendait pas. Mais ces mages sont dans une grande joie. Et j'ai envie de dire que cette joie, c'est un peu la joie de l'eureka des scientifiques quand ils confirment une théorie ou quand ils sont sur une bonne piste. Apparemment, je sais pas lequel c'est, mais ils tremblaient de joie au moment où il était sur le point de, c'était Pasteur ou un scientifique, mais quand il était sur le point de trouver la formule, ils tremblaient de joie, ils devaient passer son stylo à un collègue pour terminer, parce que là, la recherche c'est tellement fascinante et joyeuse quand on trouve. Donc la question, est-ce qu'il y a un phénomène scientifique, astronomique, qui peut expliquer tous ces détails, donc visibles dans le ciel oriental et visibles dans le ciel, quelques mois plus tard, dans le ciel israélien, quelque chose qui va quand même interpeller les mages? Une étoile normale, ils ont l'habitude de voir ça, donc s'il n'y avait aucun phénomène extraordinaire, ça non plus, ils ont une étoile qui passe, on en voit des milliers tous les nuits, c'est pas ça qui veut non plus valider. Donc quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose aussi qui peuvent, que eux, ils peuvent suivre et calculer et comprendre. Et là, c'est là où c'est pas évident à trouver la solution. Est-ce que, mais une étoile comme nous les connaissons marche pas très bien parce que une étoile, ils vont suivre des parcours plutôt réguliers. On va, s'ils sont dans un ciel, on va pas forcément les trouver dans un autre ciel en même temps. Difficile à expliquer aussi là, comment elles s'arrêtent sur une maison. Une conjonction de planètes, même problème. Si trois planètes se réunissent, on va pas les revoir trois mois plus tard aussi réunies. C'est pas possible. Par contre, il existe un phénomène astronomique. C'est ça le travail astronomique de ce chercheur irlandais, que je trouvais assez convaincant, qui pourrait respecter toutes ces conditions. Ce serait un phénomène extraordinaire, mais ça a été proposé depuis, c'est pas nouveau, hein, même les pères de l'Église disaient, ce serait une comète. Une comète, d'ailleurs, une comète n'est pas une étoile filante, pas confondre les deux, une étoile filante, mais une comète, c'est un astre, c'est un phénomène astronomique. En fait, une comète, c'est une énorme boule de neige boueuse, on va dire. Et avant, on les appelait des étoiles chevelues. Et ce mot chevelu, c'est comète. Donc, des étoiles chevelues, ce qui donne leur fameuse queue. En fait, ils n'ont pas toujours le queue, mais plus en s'approchant du soleil, la queue, les rayons du soleil poussent la queue en direction opposée du soleil. Donc, quand ils font un tour, vous avez ces impressionnantes queues qui émanent de la comète. Et ces comètes, elles peuvent être visibles pendant plusieurs mois. Elles peuvent faire un lever, un coucher. Mais elles ont des orbites vraiment atypiques, de sorte qu'on peut, c'est pas tout à fait comme, ça va, ils vont pas suivre comme une étoile normale, une planète normale que les mages connaissaient bien. Donc, un orbite extraordinaire, atypique, mais qui peut être suivi. Donc là, c'est, et depuis toute l'histoire, hein, ça c'est sur la tapisserie de Bayeux. Donc, on parle de l'an 1053, par exemple, on trouve l'image d'une comète et tout un commentaire sur... Donc, ça, d'ailleurs, c'est la comète de Halley qui correspond à la date. C'est donc, une fois, on peut savoir qu'ils sont réguliers. Là, c'est la fameuse comète. Donc, c'est un dessin, c'est une gravure de la comète de Vienne en 1577. Donc, des comètes peuvent même être très impressionnants, plus brillants que la Lune la nuit. S'ils s'approchent vraiment au point où ils s'approchent plus du Soleil, ils peuvent avoir de très longues queues. Donc ça, c'est déjà dans les temps, on va dire, avant la science moderne. Maintenant, je vais vous montrer des images de comètes prises par de nos jours. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être il faut éteindre, mais ça, c'est pris de l'espace, mais c'est une comète qui est en train de se coucher, on va dire. En tout cas, elle est en train de bouger, le Soleil à l'opposé, et donc il envoie ce que. Et puis, sur Terre, c'est assez impressionnant, là, les comètes, ils pourraient ressembler à ça. C'est une vraie photo d'une comète ces dernières années. Et donc, avec ça, on peut très bien concevoir, ils ont fait des calculs, ils ont fait des simulations avec des astronomes, et ça pourrait marcher. Je ne dis pas que c'est la seule explication, mais quand on a un texte biblique qui nous pose problème de niveau scientifique. On n'est pas obligé, nous, de trouver exactement la solution, mais si on propose une solution qui marche, eh bien, le texte peut tenir. C'est pas faux. Donc, la solution d'une comète pourrait marcher. Et même, c'est ça impressionnant, au moment où la boule passe en dessous de l'horizon, la queue reste là, et on peut très bien imaginer que c'est comme si cette queue s'arrête et indique une maison. Il suffit qu'il marche vers un relief des collines et les maisons espacées à Bethléem, et ce serait vraiment comme si un astre pointait le chemin vers la maison. Bien sûr, tout cela, en disant cela, ça ne remet pas en cause l'aspect miraculeux de cet astre, il dit bien, c'est son étoile, c'est l'étoile de Jésus, c'est l'étoile de Dieu. Et comme Dieu déjà, c'est un miracle de la manière qu'il dispose les planètes. Dieu a pu utiliser un tel phénomène pour conduire les mages. Donc, oui, une fausse piste serait d'essayer d'expliquer toute la Bible avec des sciences et des causes naturelles. Il y a bien des miracles dans la Bible que la science ne peut pas expliquer. Mais, je trouve intéressant que pour ces mages qui connaissaient ce langage scientifique, qui étaient des passionnés du ciel et de l'astronomie, Dieu les a conduits avec un astre, avec une étoile. C'était d'ailleurs une des bosses des chameaux qu'il a si bien dit, la bosse féminine, qu'il a dit, oui, que les mages ont pu être conduits dans un langage que eux-mêmes connaissaient, ce langage scientifique. Dieu s'est révélé aux mages par cette découverte extraordinaire, très atypique, mais astronomique, qui suivit des règles et qui les a donnés dans la grande joie quand ils étaient sur la piste. Et tout ça, ça les a poussés vers Jésus, vers la Bible. Et c'est ça qu'il faut, la science nous pousse vers, la vraie science nous pousse vers Jésus. Et je dirais, c'est encore le cas aujourd'hui. On peut déplorer beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui, mais nous vivons des temps palpitants, nous vivons des temps excitants, quand on pense à ce que de plus en plus la science rend l'athéisme très difficile. La science rend l'athéisme très très difficile à tenir. Plus les microscopes et plus les télescopes deviennent puissants, plus ils conduisent à Dieu. Ils nous conduisent à Dieu. En ce moment même, numéro 10 sur Amazon.fr, top vente Amazon, c'est ce titre, plusieurs m'en ont parlé, « Dieu, la science et les preuves, l'aube d'une nouvelle révolution ». Mais cette révolution a commencé à Noël. L'aube d'une nouvelle révolution, c'est que la science est maintenant la nouvelle alliée de Dieu, disent-ils. La science est la nouvelle alliée de Dieu. Nous croyons que ça a toujours été l'alliée de Dieu, mais maintenant, de plus en plus, puisque les scientifiques avancent dans les découvertes, c'est difficile de contourner la réalité de Dieu. La science, et en particulier, je dirais, l'astronomie et l'astrophysique, conduisent vers un Dieu créateur. J'ai rapidement trois découvertes modernes qui sidèrent les scientifiques. Premièrement, ça remonte déjà un peu, mais que l'univers a un début. Ça, on ne voulait pas l'admettre. Il y a 100 ans, même parler de Big Bang, c'était... Non, ça va donner raison à ces chrétiens, parce que ça ressemble trop au récit de la création, où à un moment, il n'y avait rien, et après, il y avait tout. Mais aujourd'hui, la science dit, oui, c'est ça, à un moment, il n'y avait rien, et après, il y avait tout. Comment l'expliquer, on ne sait pas, mais tous nos formules mathématiques s'accordent à ça. Einstein l'avait trouvé dans ses calculs, mais tellement la communauté scientifique, tellement il avait peur de l'affirmer, parce qu'il ne fallait pas vraiment dire ça, eh bien, il a mis un facteur d'erreur pour un peu fausser les équations pour que ça tienne. Et d'autres, par la suite, ont dit « Non, ça marche pas. Il faut le faire sans le facteur d'erreur. » Et Einstein dit « Ça, c'est l'erreur la plus stupide que j'ai fait de ma vie. C'était de céder un peu à cette pression et de trafiquer. » Mais non, l'univers a un début. Ça, c'est très intéressant. Parce que même la science, à un moment, elle est embêtée. Parce qu'est-ce qu'il y avait avant? Et comment expliquer tout ça? Deuxième chose, découverte moderne, c'est le fait que notre univers semble parfaitement calibré, parfaitement ajusté, notamment pour la vie sur Terre. Et de plus en plus, ça devient frappant. Quand on regarde la motion des planètes, l'équilibre des planètes, le placement des planètes, la taille des planètes, le moindre écart de toutes ces choses empêcherait la vie sur Terre. La taille de notre planète est parfaitement un peu plus grand, ça marcherait pas. Un peu plus petit, ça marcherait pas, notamment à cause de la gravité et plein de choses comme ça. Avec le soleil. La planète Jupiter est notre salut. Et le placement et la taille de Jupiter, cette énorme planète, sert à dévier plein de objets dans l'espace, les astéroïdes et tout ça, qui, si Jupiter n'était pas là, avec la taille qu'il a, il n'y aura pas la vie sur Terre. Et ainsi de suite, les forces nucléaires sont d'une précision que le moindre écart. J'ai même lu ça, j'arrive pas à le croire, mais j'ai lu ça d'un astrophysicien. Il dit, vous prenez la masse entière de l'univers. D'ailleurs, on le sait, c'est 1,5 kg puissance fois 10 puissance 53. C'est assez lourd. Vous prenez la masse entière de l'univers. Mais si, au début notamment, puisque c'est des maths, hein, c'est des calculs, ils prennent la densité, ils prennent l'énergie, tout ça. Donc. Mais il dit, si ça déviait de la masse, de la taille d'une pièce de monnaie, plus ou moins, la vie ne marcherait pas ici. C'est astronomique, c'est phénoménal. C'est comment expliquer ces choses? Donc, l'univers a un début, ça c'est une nouvelle découverte qui nous sidère. La précision, le calibrage parfait dans tous les domaines de l'univers, difficile à expliquer par hasard. Et troisième chose, je vous laisse avec ça, c'est l'origine de la vie. Ils appellent ça la biogenèse, mais le moment où la vie apparaît. Bon, on arrive à expliquer, bon, les choses ont évolué de différentes races et espèces, mais personne n'arrive à expliquer le début, l'origine de la vie. Il y a eu des expériences faites il y a 50 ans en disant, oui, on va peaufiner ça, on va avancer, on va trouver comment ça s'est fait. Mais la chose, c'est que plus on étudie avec les microscopes, plus ça paraît impossible. Un exemple, l'organisme monocellulaire, c'est-à-dire les plus petites choses vivantes, une seule cellule. Donc, j'ai regardé, celui qui a le plus petit ADN, ce petit ADN qui est à l'intérieur d'une cellule, donc déjà c'est très très, très petit, une cellule, la chose vivante la plus petite, une cellule, mais elle a quand même son ADN. Et cet ADN contient 159 662 caractères. Donc il faut 159 662 caractères, chiffres, on va dire, lettres, comment dire, ADN, pour faire une cellule vivante. Alors j'ai regardé les notes de mon message que vous prêchez aujourd'hui. Les notes de mon message fait à peu près 10 000 caractères. Vous auriez souhaité un peu moins peut-être, mais 10 000. Mais donc ça fait, si il faut prendre les 16 derniers messages prêchés à notre église, supposons que tous les prédicateurs ont des manuscrits à peu près de la même taille, et vous prenez tout ce texte, et il aurait fallu que le hasard produise ça, tous les 16 derniers messages, aussi, et vos oreilles pour les comprendre et tout ça, pour une cellule, pour le plus petit ADN. Ça devient extraordinaire, et la science nous conduit de plus en plus vers Dieu. Et plus généralement, la science a progressé là où il y avait une vision chrétienne du monde. Parce que quand l'histoire de la Bible qui raconte qu'à l'origine de l'univers, il y avait la parole, il y avait une pensée, il y avait Dieu, il y avait cette intelligence, déjà, ça nous aide à comprendre le monde. Et puis que cette intelligence, ce Dieu, cette parole s'est faite chair et est entrée dans ce monde matériel. Ça aussi, ça valorise l'étude du monde matériel. Et donc ces vérités-là, l'histoire de Noël même, qu'au commencement était la parole a tout créé, et cette parole s'est faite chair. Et bien, ces vérités-là ont donné le feu vert à la science. Einstein disait, le grand miracle de l'univers, c'est qu'il est compréhensible. Si tout est produit de hasard, comment comprendre le hasard? Mais le fait qu'il est compréhensible, c'est miracle. Et je termine avec cette pensée. Ils n'ont pas adoré la science, mais ils ont adoré Jésus. Leur démarche est étonnante quant que mage, parce que normalement, dans la mentalité païenne, les étoiles et les astres sont des divinités. Et donc, une nouvelle étoile extraordinaire, la première chose à faire, normalement, ce serait ériger une idole ou construire un temple. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont pas dressés en nouveaux grands prêtres d'une nouvelle religion. Au lieu de ça, ça les a conduits à Jésus. Et ils n'ont pas adoré la science. Ils n'ont pas adoré la comète ou l'étoile. Ils ont adoré Jésus. Et ça, c'est le rappel. La Bible nous invite tous à ne pas adorer la créature, la création, mais adorer seul le Créateur. Et finalement, qu'est-ce qui a conduit les mages à Jérusalem et ensuite à Bethléem? Qu'est-ce qui a poussé les mages à demander le roi des Juifs? Parce qu'une étoile, comment ils ont pu savoir que c'était le roi des Juifs? Parce qu'une comète ne parle pas. Mais justement, en Babylone, ils avaient accès au texte biblique par la présence des Juifs, Daniel, et ils pouvaient y connaître des prophéties, notamment Nombre 24-17, ce prophète païen qui dit même, « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » D'ailleurs, une comète et un sceptre, si vous regardez deux photos, ça ressemble vraiment. Mais on pense que c'est de telles prophéties, une telle connaissance aussi des textes bibliques, qui les ont poussés à chercher le roi des Juifs, comme prophétisé en Israël. Et une fois arrivés à Jérusalem, c'était surtout le texte biblique de Michée qui les a conduits à Bethléem. C'était pas tant l'étoile qui les a conduits dans un premier temps, c'était le texte biblique de... Donc vous voyez, ils ont, la science n'est pas suprême. Il fallait aussi la Bible, il fallait que Dieu leur parle. D'ailleurs, ils sont retournés par un songe, par une révélation divine. Donc il faut la révélation de la nature, mais aussi la révélation de Dieu dans sa parole pour nous conduire. Et ça, ça nous protège. La science n'est pas suprême, n'explique pas tout. La science, même, je trouve intéressant, la science elle-même n'explique pas la joie des mages au sens... en tout cas, on pourrait expliquer la joie des mages en disant que c'est juste des neurones qui déclenchent des hormones et c'est ça la joie. Mais vous allez vous gâcher les fêtes si chaque moment joyeux, vous vous dites « Ah non, c'est que des neurones qui déclenchent des hormones dans ma vie. » Donc, c'est un phénomène purement scientifique. Je peux pas dire vraiment que je suis dans la joie, c'est juste des neurones qui déclenchent des hormones. Personne fonctionne comme ça. Donc la science n'explique pas tout. La science n'explique pas la méchanceté coupable de Hérode. Si ces bébés c'était juste des amas de cellules à mettre au recyclage, où est le problème? Mais non, il y avait une violence, il y avait un péché de massacrer ces enfants. Mais la science n'explique pas ça, les côtés éthiques. Et le problème de notre époque, c'est que la science a été dressée en valeur suprême, et c'est plus la science, c'est le scientisme, une nouvelle religion. Mais dans le scientisme, il y a souvent un agenda politique, financier, médiatique. Des fois, les autres points de vue ne sont pas admis. Le comble aujourd'hui, c'est que tous les scientifiques disent cela, et puis arrive peut-être un scientifique chrétien qui dit, bon, voilà, peut-être l'origine a un créateur. Ah non, ça c'est pire, scientifique, tu es disqualifié, tu n'es même plus un scientifique parce que tu dis ça. Et donc, ça c'est pas scientifique. Les vrais scientifiques manifestent une grande humilité, sachant que la science ne cesse de découvrir encore bien plus de choses. Quand on regarde 50 ans en arrière, on dit, qu'est-ce qu'on savait peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour 50 ans d'ici, dans l'avenir? On va regarder notre époque, 2021, et dire, qu'est-ce qu'on savait peu. Raison n'a pas faire la science suprême de sa vie, ne pas adorer la science, mais revenir à ce Dieu qui ne change pas, et sa parole depuis des milliers d'années reste vraie. Et surtout, une étoile ne peut pas vous sauver. Une comète, un astre, ne peut pas entrer dans votre vie. Une comète reste impersonnelle. Avez-vous déjà contemplé le ciel? J'aime bien la sortie Père Fils, parce que là, la nuit, on voit... Quand il fait beau, on voit un ciel magnifique dans les Pyrénées. Est-ce que vous avez déjà été à la montagne ou à la campagne? Et la voûte céleste avec toutes ces étoiles, je trouve que c'est une des expériences les plus fortes dans la vie, dans l'expérience humaine. Mais même là, c'est beau, c'est magnifique de penser à ce grand nombre d'étoiles, la taille. Mais même là, est-ce que la Voie lactée s'intéresse à toi? Est-ce que Andromède peut enlever tes sentiments de honte, de culpabilité, d'échec, d'amertume, d'insignifiance? Est-ce que Jupiter peut t'accompagner dans la vie et dans la mort? Non, la distance reste infranchissable et puis c'est des objets impersonnels. Pour cela, il nous faut un sauveur. Il nous faut un berger de nos âmes, un roi parfait, un Dieu d'amour. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Et c'est pour ça qu'il faut adorer Jésus, suivre Jésus, aimer Jésus, plus encore que l'astronomie ou la science. Alors qu'on soit astronome hyper diplômé, qu'on soit charpentier, menuisier, comme Joseph, qu'on soit enfant, eh bien, nous avons tous besoin d'un sauveur. La science peut nous y conduire, le texte biblique peut nous y conduire, une vie d'église peut nous y conduire, mais que ce Noël soit encore l'occasion pour nous tous de placer notre foi en lui et de l'adorer.